C'est le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, l'avenir de l'Allemagne qui s'écrit aujourd'hui. 60 millions d'électeurs particulièrement indécis. Ils doivent donc trouver un successeur ou une à Angela Merkel. On y revient juste après les autres titres, Christelle.
Pas de primaire chez les Républicains. Les militants ont choisi de choisir eux-mêmes leur candidat. Ce sera le 4 décembre. Xavier Bertrand pourrait ainsi se rapprocher du parti qu'il a quitté il y a 4 ans. Elles veulent plus de reconnaissance, plus de moyens pour aider à naître. La grève des sages-femmes jusqu'à ce soir est très suivie. Retour à la case départ pour les toxicomanes évacués vendredi à Paris. Ils se sont réinstallés sous le périphérique, là où ils étaient exactement il y a 2 ans.
Vous parliez de l'Allemagne, Christelle, à l'instant. Eh bien, à 8h20, question sur le couple franco-allemand avec l'historienne Marion Gaillard. Quel avenir pour ce couple, Marion Gaillard, spécialiste des relations franco-allemandes.
France Inter.
L'Allemagne tourne donc aujourd'hui la page Merkel, 16 ans de règne sous la marque du pragmatisme et du compromis. 60 millions d'électeurs votent pour les législatives, avec un scrutin en partie proportionnel, en partie majoritaire, qui débouchera sur la constitution d'une coalition. Et le suspense est absolument total. Merkel n'a pas préparé sa succession et près de 40% des Allemands sont indécis. Reportage à Munich, Sébastien Baer.
Les ultimes meetings, les derniers débats entre les candidats n'ont finalement pas aidé Sigurd, un commerçant du centre-ville de Munich, à se décider.
Peu importe qui dirige l'Allemagne, il n'y a pas de politique allemande. Les décisions, elles sont prises au niveau européen. C'est pour ça que ça ne change rien de voter pour l'un, pour l'autre. On aura de toute façon de nouveaux impôts et de nouvelles taxes à payer.
Elle non plus n'a pas encore fait son choix. Lucia, 34 ans, se présente comme une sympathisante du Parti Vert. La jeune femme regrette déjà la chancelière.
Merkel se préoccupait du pays. Ses successeurs, je n'en suis pas si certaine. Madame Baerbock manque d'expérience, Laschet n'a aucun charisme et Scholz est concerné par des scandales.
Ces indécis, les candidats ont tenté de les convaincre. Pour Armin Laschet et la CDU, donnés perdants, ils représentent un dernier espoir, assure Jonas, membre du parti conservateur.
Bien sûr, ces dernières semaines, nous ne sommes pas au mieux dans les sondages, mais il faut garder confiance. Beaucoup d'électrices et d'électeurs sont encore indécis et je pense que tout est encore possible.
Ces dernières heures, l'écart s'est resserré entre les candidats, rendant le scrutin encore plus incertain. À Munich, Sébastien Baer, France Inter.
Et quel que soit le parti vainqueur ce soir, il faudra sans doute des semaines pour mettre en place une coalition. Mouti pourrait bien assurer l'intérim jusqu'à Noël. À l'étranger, c'est aussi le Premier ministre malien qui accuse à la tribune des Nations Unies la France d'un, je cite, « abandon en plein vol » avec la décision de retrait de la force Barkhane. Il justifie au passage son souci de trouver d'autres partenaires pour assurer la sécurité de son pays, à savoir des mercenaires russes, ce que confirme Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. En France, un hommage national devrait être rendu dans la semaine au caporal-chef Maxime Blasco, tombé hier sous le feu d'un tireur embusqué.
La politique en France est donc pas de primaire pour les Républicains. Les aléas de 2016 ont laissé trop de mauvais souvenirs.
Oui, les militants ont décidé à 58% de choisir eux-mêmes leur candidat à la présidentielle et ce résultat semble donner l'avantage à Xavier Bertrand, qui pourtant est hors parti. Tout sera bouclé de toute façon pour le 4 décembre, Anne Souhaitemont.
Il est loin l'automne 2016, sa grande primaire de la droite, ses débats télé et les longues files d'attente devant les bureaux de vote un peu partout en France. Le 4 décembre prochain, ce seront les militants LR et eux seuls qui choisiront leur candidat à la présidentielle. Un soulagement pour le président du parti, Christian Jacob.
Écoutez, oui, c'est une bonne nouvelle, bien évidemment, puisque ça permet que le 4 décembre, le débat soit clos et surtout rassemblé derrière un candidat d'union.
Un candidat d'union, car outre Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, Xavier Bertrand pourraient aussi participer et mettre fin au spectre d'une double candidature de droite. Opposé à toute forme de primaire depuis des mois, Xavier Bertrand pourrait solliciter le soutien du parti. Le résultat du vote d'hier est vu dans son camp comme un encouragement. Pierre-Henri Dumont, porte-parole de Xavier Bertrand.
C'est une victoire pour Xavier Bertrand qui, depuis le début de sa campagne, a dit qu'il rejetait la primaire. On revient à une forme qui est la forme du congrès. Donc c'est tant mieux.
Soucieux de ne pas s'enfermer dans les histoires internes au parti, Xavier Bertrand n'a pas dit un mot depuis les résultats d'hier soir. Se contentant d'immortaliser sur les réseaux sociaux sa présence à la fête du haricot à Soissons dans sa région, le terrain plutôt que les histoires d'appareils.
Voilà, c'est tout un symbole, cette fête du haricot. La primaire chez les Verts, on vote aujourd'hui jusqu'à mardi pour départager Yannick Jadot et Sandrine Rousseau à l'issue du premier tour. Moins de 3000 voix séparaient les deux finalistes. Ils sont donc installés sous le périphérique numérique parisien. Il s'agit de la cinquantaine de toxicomanes évacués vendredi des abords des Jardins des Halles. 2 ans après le démantèlement de la colline du Crac, porte de la Chapelle, c'est quasiment un retour au point de départ. Reportage Faustine Calmel.
Le square de la Porte de la Villette s'est brutalement rempli de tentes et d'abris faits de toiles accrochées aux arbres. En cette fin de matinée, un homme est allongé à même la terre, une couverture sur le visage. Plusieurs fument du crack sur un muret. D'autres encore remplissent leurs bouteilles en plastique au point d'eau installé à la va-vite. Bakary, sans papier, vit ici depuis des mois et les a vus débarquer avec inquiétude.
Je n'ai pas de grand-chose en commun avec eux, mais bon. Ils peuvent être virulents des fois, parfois avec des propos, des mots.
À cause du manque surtout, poursuit le jeune homme.
C'est ça qui provoque tout ça.
Un peu plus loin, Youssouf, gilet bleu sur le dos.
Là, je suis arrivé, on a découvert beaucoup de monde qui est en difficulté.
Il intervient pour l'association L'Arche d'Isaac.
Franchement, je ne m'attendais pas à autant de toxicomanes. Ils ont vraiment l'air brisés mentalement, même physiquement. C'est vraiment au bord du gouffre.
Et n'en peuvent plus de l'errance. Beaucoup acceptent de discuter, mais personne ne veut parler à notre micro. Ils racontent les évacuations répétées, colline du Crac, Stalingrad, Jardin des Halles, pour revenir ici, 2 kilomètres plus loin. Plusieurs disent vouloir un lieu d'accueil où ils pourraient être soignés, aidés, épaulés. Le préfet de police a parlé de ce square comme d'une solution temporaire, mais aucun lieu définitif de prise en charge n'a pour l'instant été évoqué.
Et le préfet de la région Île-de-France et celui de la préfecture de Paris se justifient dans un courrier envoyé à Anne Hidalgo. Malgré les apparences, l'accompagnement des consommateurs de crack a été amplifié, écrivent-ils, avec maraude des places d'hébergement. Quant au fameux mur érigé pour boucher un tunnel entre Paris et Pantin, c'est une indispensable protection des habitants.
Voilà une grève très suivie depuis vendredi. 60% des cabinets de sages-femmes libérales sont fermés.
Après plusieurs manifestations, Olivier Véran, le ministre de la Santé, leur a accordé il y a quelques jours une hausse de salaire de 100 euros bruts par mois pour celles travaillant à l'hôpital, en plus d'une prime de 100 euros. Mais elles veulent plus, un autre statut et une véritable réflexion sur leur métier. Caroline Combeau est secrétaire générale de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes.
Il n'y a pas que l'argent qui nous intéresse. Ce que dénoncent les sages-femmes, c'est une baisse de la sécurité dans les maternités aujourd'hui, des défauts de prise en charge, parce que il y a des effectifs humains qui sont insuffisants dans les salles de naissance, des sages-femmes qui courent partout parce qu'elles suivent de façon simultanée plusieurs femmes en travail, qu'elles gèrent les urgences gynécologiques, obstétricales. Et donc, clairement, au niveau moyen humain, les sages-femmes sont insuffisantes. Le problème, c'est que des effectifs, c'est bien, mais encore faut-il faire venir les sages-femmes dans les maternités. C'est le gros problème qu'on a pointé du doigt, nous, cet été, le Conseil de l'Ordre aussi. On a un gros problème de recrutement dans les maternités actuelles, parce qu'on a clairement un gros problème d'attractivité de la profession. Attractivité au moment du recrutement, mais attractivité aussi dans le temps. C'est-à-dire que les sages-femmes, eh ben, elles changent de métier. On n'attendait pas des sous, on attend des moyens réfléchis, organisés, et pas qu'une réponse sonnante et trébuchante.
Caroline Combeau, interrogée par Célia Kiré. Une nouvelle journée de manifestation est déjà annoncée pour le 7 octobre à Paris. Emmanuel Macron en vidéo entre deux artistes. Il a profité du concert mondial de l'organisation caritative Global Citizen pour annoncer un geste. La France va donner 120 millions de doses de vaccins aux pays pauvres. Elle double la mise, soulignant que seuls 3% des Africains, par exemple, sont aujourd'hui vaccinés. Et c'est Sir Elton, hier soir, qui a mis sur orbite le concert géant au Champ de Mars. Costume vert, lunettes à verre fumée rose, Tour Eiffel en arrière-plan.
She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m.
Rocketman a plaidé au passage pour que personne ne soit laissé au bord du chemin en cette période de crise sanitaire. À New York, le prince Harry et Meghan sont montés sur scène, eux, pour sensibiliser l'opinion aux menaces climatiques.
Elton John, Harry, like a candle in the wind, comme le journal de Christelle Rebière. C'est une petite santé, ça
joli.
Va mieux.
Ouais, c'est bon. Je reviens à 8h, puisque
avec
c'est
comme plaisir, ça. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Quel que soit le temps, pour ma santé, c'est Via Santé.
Et le quart sud-est toujours sous les orages, Jean-Michel Golinski.
Oui, effectivement, Eric. Dans ce quart sud-est, les forts orages de la nuit ont déjà donné beaucoup de pluie, jusqu'à parfois plus de 100 litres au mètre carré en quelques heures, par exemple du côté d'Aubenas et d'Anduze. Cette activité orageuse va s'estomper progressivement en matinée, mais d'ici là, il va encore beaucoup pleuvoir, en particulier sur le Gard, l'Hérault, l'Ardèche et la Drôme, maintenus en vigilance orange, forte pluie et orages. Des orages moins puissants circulent également ce matin du Grand Est au Val-de-Saône, là aussi l'activité va décliner en seconde partie de journée. Sur le reste du pays, l'ambiance est quand même souvent beaucoup plus calme, avec des grisailles et des brouillards assez fréquents. Il y a également des averses à signaler du Poitou-Charente à la Bretagne. Ensuite, c'est un ciel variable qui va s'imposer, avec pour l'après-midi la possibilité d'une ondée passagère éventuellement mêlée d'un coup de tonnerre. Avant l'arrivée ce soir par la Bretagne, de nuages beaucoup plus denses, annonçant pour demain le passage d'une perturbation qui va traverser le pays d'ouest en est.
Jean-Michel Golinski, Météo France.